Chaque quartier, chaque rue d'une ville évoque un souvenir. Grâce à la topographie d'une ville, c'est toute votre vie qui vous revient à la mémoire et aussi la vie des autres. Comme dans ces mots de Modiano, voyageons dans la géographie sensible des villes. Après Dubaï, descendons la mer d'Arabie, l'océan Indien, les côtes de l'Afrique. Le vent nous mène vers l'ouest, l'Atlantique Sud, jusqu'en Argentine. Sur les rives du fleuve Rio de la Plata, dans la ville que les navigateurs appelaient le port Notre-Dame du Bon Vent, Buenos Aires. Escale première, Buenos Aires Ville-Monde, Buenos Aires, la ville de mémoire. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
C'est donc par ce plata boueux et rêvasseur que les bateaux venus me faire une patrie descendirent un jour leurs coques de couleur cahotant parmi les nuphars du courant gris. Regardons de plus près. Le fleuve en ce temps-là doit encore être bleu car c'est du ciel qu'il vient. Une petite étoile rouge dit l'endroit où jeûna Juan Diaz, mais non pas les Indiens. Quoi qu'il en soit, l'épreuve arrivée de la mer, d'une mer large de cinq lunes, et qu'alors habitaient les dragons, les monstres, les sirènes, et les pierres qui font délirer la boussole. Ils épinglèrent sur la côte des chaumières, tremblantes et s'endormirent étrangers, non point à la boca, galéjade grossière, ce fut à Palermo, ce fut dans mon quartier. Et le damier de la grande ville commença. Les côtés du premier carré qui dure encore se nomment. Mais mieux vaut les terres en ce temps-là. Les limites, c'étaient les vents et les aurores.
Ville-Monde, Buenos Aires. La ville de mémoire. Andrea Cohen, Gaël Gillon, Benjamin Thur. Quartier Saint-Nicolas, à son domicile, Noé Gittrick, poète et essayiste.
D'abord, le point de départ, c'est une découverte. Donc, je venais de la campagne, je venais d'un village, paysan, comme ça, dans un village presque du désert, de la Pampa, et j'avais aucune idée de quoi pouvait être une ville, une grande ville. On a pris un train, je me suis réveillé en arrivant et j'ai vu quelque chose qui m'a débordé, m'a ébloui, m'a marqué pour toute ma vie et j'ai ressenti ça comme une espèce d'énigme, un secret, un énigme que je me suis proposé sans le proclamer, sans le savoir même, de déchiffrer pendant tout le reste de mon existence.
Buenos Aires n'est pas seulement la capitale d'un pays, l'Argentine, mais elle est aussi sa tête de Goliath, comme l'a écrit l'essayiste Ezequiel Martínez Estrada, pour définir cette ville tentaculaire où habite un tiers des Argentins. À quoi ressemble Buenos Aires ? Bien qu'ayant des allures d'une capitale européenne, elle n'en est pas moins une métropole profondément américaine. Unique dans sa multiplicité, à la fois actuelle et intemporelle, Jorge Luis Borges l'imaginait éternelle comme l'eau et comme l'air. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Revenir dans ma ville natale, c'est revenir à la fois vers du connu et vers de l'inconnu. La ville change, le pays change, mais quand j'entends ces habitants qu'on appelle les porteños parler ma langue maternelle, je prouve ce sentiment familier de me retrouver à la maison. Porteño signifie littéralement l'habitant du port. N'est-il paradoxal d'ainsi nommer les habitants d'une ville qui tourne le dos à son fleuve, le Rio de la Plata? Lundi 15 novembre 2015, quartier d'Almagro, devant le centre commercial ancien marché des Halles. Maria Carmen, anthropologue et romancière.
Je suis une passionnée de ma ville, une fanatique. J'ai grandi dans le quartier de Retiro, et quand je regardais depuis le balcon de la maison, il y a un vieux marché près de la tour des Anglais. J'avais la sensation qu'après ce marché, le monde finissait, qu'il y avait une sorte d'abîme. Mon amour pour ce quartier particulier, pour les Halles, vient de loin. Tous les samedis, j'allais avec mes trois frères et mon grand-père manger dans un bistrot qui s'appelle la Viña del Abasto. C'est une vieille cantine traditionnelle où on mangeait du poulet avec des haricots. Mon grand-père était un fou de tango et cela, il me l'a transmis. Comme j'étais la plus jeune des quatre enfants, je me souviens que mes parents n'avaient aucune idée d'où j'allais me promener. Ils n'avaient aucun contrôle sur ma personne. Moi, à l'âge de 12-13 ans, je prenais un bus pour aller n'importe où dans la ville. J'avais un plan avec tous les passages de Buenos Aires. Et j'allais visiter les petits passages à Liniers, à Villa Ortuzar, dans n'importe quel quartier. Et je me suis prise d'un grand amour pour ma ville. Comme Borges, j'aimais surtout la partie de la ville qui va de l'avenue Rivadavia vers le sud et qui est la plus faubourienne, la plus proche du fleuve, la plus populaire, avec la mythologie porteña la plus présente.
Samedi 14 novembre, quartier de Palermo, bar El Preferido. Carlos Cito, journaliste et écrivain.
J'ai vécu plus de 20 ans en France, mais chaque fois que j'arrivais, je venais à Buenos Aires, je venais souvent, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Je crois que depuis tout petit, j'ai appris les styles de Buenos Aires, comment il fallait être pour vivre à Buenos Aires et ça, mais je me suis adapté. À 10 ans, je prenais tout seul le métro de mon quartier, je m'échappais de la maison. Mon quartier était Chacarita. Chacarita, derrière Chacarita, il y a un quartier qui s'appelle Villaortúzar. Mon père travaillait à l'entreprise de transport public de la ville de Buenos Aires, ce qui à Paris c'est la RATP. Et donc, cet travail les donnait pour ses enfants en âge d'aller à l'école, une carte pour voyager gratis. Donc je montais dans les autobus, dans le métro, et je venais au centre-ville voir la ville, à 10 ans, 11 ans. Je trouve que c'est une ville magnifique. Actuellement, il y a beaucoup d'événements culturels, on peut voir des films français, japonais, iraniens. Il y a, du point de vue culturel, il y a tout ce qu'il faut. Et la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus d'étrangers, même des Européens et des Français, qui viennent s'installer à Buenos Aires. Et je crois que Buenos Aires, c'est une des rares villes dans laquelle être étranger, c'est un privilège. Et surtout si on est Européen, et surtout encore si on est Français, parce qu'on aime beaucoup la France, la culture française ici.
L'impression que j'ai de Buenos Aires, l'impression que j'ai eue il y a 8 ans quand je suis arrivé dans la ville, et l'impression que j'ai toujours aujourd'hui, c'est que c'est la ville de tous les possibles.
Quartier de Recoleta, Julien Maillard, journaliste.
Quand on arrive en Argentine, on sent que c'est un pays qui est très jeune, qui est un pays qui est en devenir, et on sent qu'on participe à la construction de quelque chose. C'est la ville de tous les possibles aussi, parce que cette ville est particulièrement dynamique. Si on ne se promène pas dans un quartier pendant un mois, on passe notamment, je pense à des quartiers comme Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Almagro. Tous les mois, il y a des commerces qui ouvrent, qui ferment. On se rend compte qu'on passe dans une rue, il y a deux nouveaux commerces, deux nouveaux cafés, deux nouveaux restaurants. Les commerces ouvrent et ferment très rapidement. Ensuite, le dynamisme de la vie culturelle à Buenos Aires est particulièrement importante. Il faut savoir que Buenos Aires est la ville qui compte le plus de librairies au monde. Et c'est la ville qui compte le plus de théâtres au monde. Les gens se définissent autant, sinon plus, par leur passion et leur hobby que par leur travail, en fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un métier, mais si le soir on se passionne pour la musique, le sport ou une autre activité, cette activité, ce hobby, va nous définir autant que notre travail, en fait. Et c'est très facile de passer d'un métier à un autre, de changer de voie, de se tromper, de reprendre ses études. Tout ça est vraiment encouragé, fomenté.
Les rues de Buenos Aires sont déjà passées dans ma chair. Non les avides rues qu'empêchent la cohue et l'agitation, mais les rues de quartier avec leur ennui paresseux. Presque invisible à force d'être habituel, attendrie de pénombre et de couchants. Et celle-là, plus loin, privée d'arbres pieux, ou d'austères maisonnettes, à peine se hasarde, écrasé par d'immortelles distances, à se perdre dans cette profonde vision de ciel et de plaine. Elles sont pour le solitaire une promesse. Parce que des milliers d'âmes singulières les peuplent, uniques devant Dieu et dans le temps, et sans doute précieuses. Vers l'ouest, le nord et le sud se sont déployés et elles sont aussi la patrie, les rues. Heureux les vers que je trace si ces drapeaux y sont.
Je suis arrivé en 37. Alors, à ce moment-là, j'essayais de découvrir la ville, je marchais. Je marchais, je me promenais, j'allais, je faisais une espèce d'inventaire et collection des noms des rues, par exemple. Alors j'arrivais à la maison après une balade, je disais aujourd'hui je suis allé par la rue Intel, et alors le nom, je prononçais ces noms qui sonnaient comme une espèce de musique. Alors, j'étais fier, ma famille ne comprenait pas, ils écoutaient ça sans prêter attention. Alors je marchais, je chantais pour moi-même, le tango qui faisait aussi une espèce d'appui de ces rythmes que j'ai trouvés dans la ville et dans mon déplacement, des choses qui s'est déployées devant mes yeux d'enfant, mais un enfant qui voulait saisir, comprendre ça. Alors c'est des détails, des choses, des goûts, des odeurs, des bruits. C'était, pour moi, c'est la vie.
Esta calle cuál es?
Esta es Sancho Arena. Y este es el pasaje Carlos Gardel.
Como recuerdo, patrio querido, aquello tiempo de mi niñez. Eres el sitio donde nacido y eres la cuna de mi orden. Barrio del alma fue por tu calle donde gozamos mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Nunca quise recordar, me duele el corazón. Almagro mío, que enfermo estoy.
Esto antiguamente era una enorme laguna.
Ici, autrefois, c'était une énorme lagune où les femmes venaient laver le linge. Après, vers 1880, il y a eu une immigration massive, surtout italienne et grecque, dans cette zone. Les propriétés qui s'y trouvaient ont commencé à se vendre en parcelles.
Le creux où se trouve actuellement le centre commercial servait de terrain pour jouer au pallone, un jeu de balle italien. L'unique terrain de pallone qui existait en Argentine. Il a été vendu en parcelles et c'est là qu'on a construit le marché donnant sur la rue Lavaggi. C'était l'ancien marché idéal de toute la ville pour les fruits et les légumes.
Vers 1890,
s'est formé autour un quartier très populaire plein de bistrots, de maisons de passe, de petits cafés. Il y a une quantité de légendes associées à ce quartier. C'est ici que la quiniela, une sorte de loto, a été inventé. Tout ça pour dire que ce quartier était considéré comme le plus porteño de Buenos Aires, déjà à la fin du 19e siècle. 20 ans avant l'époque d'or du tango, c'était un quartier très populaire.
Là, c'est marqué Serrano 21-35. Il y a une plaque. Dans cet emplacement était la maison où a vécu Jorge Luis Borges pendant son enfance, depuis 1901 jusqu'à 1914, quand ils sont partis en Europe. Là, c'est justement le poème de la Fondation Mythica de Buenos Aires, qui dit « Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sudestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.
Et la ville aujourd'hui est comme le tracé de mes humiliations et de mes insuccès. Du seuil de cette porte, j'ai vu les couchants. Devant ce marbre, bien en vain, j'ai patienté. Ici, le passé vague et le présent distinct ont pu me présenter les cas les plus communs de toute humaine destinée. Ici, mes pas ourdissent leur incalculable labyrinthe. Ici, le soir d'une couleur de cendre espère. En attendant les fruits que lui doit le matin, c'est ici que mon ombre, dans l'ombre finale, tout aussi vaine et légère, va se perdre. Ce n'est point l'amour qui nous unit, c'est l'effroi. C'est pour cela sans doute que je l'aime autant.
Ben, on est dans le vieux Palermo, cette bar, ce café traditionnel s'appelle le Preferido. Il existait déjà à l'époque que Borges habitait ici en face, à 50 mètres. Quand il était petit, il voyait derrière les grilles de sa maison, il voyait le mouvement de ces cafés dans lesquels il y avait ces personnages qui sont les compadritos, dont il a fait toute une mythologie dans sa littérature. Ce qu'il admirait, c'est que c'était des gens qui se battaient à couteau pour montrer son courage. C'est pour ça qu'il dit dans sa milonga à Jacinto Chiclana, il dit à la fin, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Le courage est toujours mieux, il faut garder toujours l'espoir.
Me acuerdo, o en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre.
Bon, c'est devenu un quartier très à la mode ici. Personne ne l'appelle plus Palermo Viejo, on l'appelle Palermo Soho, comme à New York, Soho. Est devenu un quartier de restaurants chic, de boutiques de mode, de design, très coté, très cher pour louer un appartement ou un local commercial. Mais c'est quand même très agréable, il y a beaucoup d'arbres, c'est agréable la vie.
cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
Bueno, y luego, hacia la década del 10, es cuando empieza a...
Après, vers les années 1910, Carlos Gardel a commencé à fréquenter cette zone. Mais il n'était pas encore un chanteur de tango connu. C'était seulement un jeune homme rondouillard qui venait avec sa bande pour provoquer d'autres jeunes. Il y avait beaucoup de bagarres au couteau. C'est dans le bistrot La Chanta Cuatro que Gardel, alors tout à fait inconnu, a commencé à chanter. Et c'est ici, dans le café Au Rondeman, qu'il a gagné ses premiers pesos. La légende dit que Gardel n'a jamais oublié son quartier et que quand il est devenu célèbre, la première chose qu'il a faite a été d'acheter une maison à sa mère où ils ont tous les deux vécu dans les années 20.
Entre los años 20
c'est dans cette maison que sa mère est morte.
En esa casa murió su madre y bueno, y él luego muere trágicamente.
Lui, il meurt tragiquement dans un accident d'avion à Medellín, en Colombie, en 1935, au sommet de sa carrière. Il avait 43 ans.
Lo que hace en pleno apogeo de su carrera, Gardel tenía 43 años, lo que hace es
cette mort par le feu n'a fait que renforcer son
mythe. Mi papá justo nació en el año 35.
Mon père est né en décembre 1935. Gardel est mort le 24 juin de la même année.
Es decir, que él estaba en la panza de su mamá. Y lo que me cuenta mi papá es que fue tan terrible el duelo nacional.
Après la mort de Gardel, le deuil national fut si grand que la seule chose que diffusait la radio, c'était les tangos de Gardel.
Los tangos de Gardel. Entonces él me dice que él ya conocía todos los tangos de Gardel.
Mon père dit qu'il les entendait dans le ventre de sa mère et que pour cette raison, à peine né, il connaissait absolument toutes ses chansons.
Y bueno, y además la historia de Gardel está muy viva en el barrio.
L'histoire de Gardel est encore très vivante dans le quartier.
Alors là c'est vraiment la carte postale, une des cartes postales de Buenos Aires et la carte postale de la Recoleta. On est donc sur la Plaza Francia avec en fond l'église Nuestra Señora del Pilar. Donc c'est une église coloniale. En fait, ce qui est intéressant à Buenos Aires, c'est que les quartiers sont très hétérogènes. Si on va à Paris ou à Rome ou dans beaucoup de villes d'Europe, il y a une vraie homogénéité d'architecture. À Buenos Aires, chaque ville a un petit peu son style, son histoire. Et donc du coup, on a des quartiers.
Chaque
quartier, et même à l'intérieur d'un même quartier, on peut tout à fait avoir une maison coloniale, à côté d'un immeuble récent, à côté d'une maison de type architecture française.
Et aussi les quartiers, ils sont différenciés. Alors, les niveaux.
Tout à fait. Alors, la Boca, avec ses fameuses maisons colorées, raconte l'immigration italienne. San Telmo raconte un peu la création de Buenos Aires, ce tout premier quartier de Buenos Aires, avec des vieilles bâtisses bourgeoises qu'on a depuis été récupérées d'ailleurs. Le quartier de la Recoleta raconte un petit peu l'âge d'or de Buenos Aires, le fin 19e, début 20e, lorsque les grandes familles bourgeoises de Buenos Aires faisaient venir. Le marbre d'Italie, faisaient leur maison avec du matériel importé d'Europe. C'était un peu l'âge d'or de Buenos Aires. Évidemment, tous ces bâtiments coloniaux qui racontent donc la colonisation espagnole. L'architecture de chaque quartier un petit peu raconte l'histoire de Buenos Aires.
Regardez, c'est un immeuble avec des créneaux, comme si c'était une forteresse. Et je crois que ça existait depuis la première époque où Palermo était un faubourg à la limite de la ville. Quand la famille Borges est venue s'installer ici, Palermo c'était presque la campagne. Et donc il y avait des épiceries, des commerces qui étaient bâtis comme si c'était des châteaux forts. En pensant qu'on était près de la Pampa, mais évidemment les Indiens étaient déjà longtemps qu'ils étaient disparus et qu'ils ne menaçaient plus Buenos Aires.
Et puis tu fuis Palerme et ses mythes, ma ville. Je te sentais au laconisme des couteaux, dans des mémoires de cartes et de tango, dans la main en faux or, du heurtoir inutile, bagué. Et Puis je t'ai cherché en une cour de ton sud, au vers ce poteau dont l'ombre extrême.
Le sud, c'est la vieille ville de Buenos Aires. C'est un beau poème que j'avais tout à fait oublié. Ou la traduction l'a amélioré, ou l'a sauvé.
Aujourd'hui, tu n'es plus qu'en moi-même, que moi. Tu n'es plus rien, sinon mon vague sort. Tu n'es plus que ces choses-là qu'est à la mort.
C'est un poème assez mélancolique. Je me sens un peu triste quand j'écris tout cela, sans doute. Je ne me rappelle pas le moment où je l'écris. Je ne peux rien dire sur ce poème, monsieur. Je le trouve assez beau et assez vague aussi.
Mais ça parle quand même d'une ville qui vous est chère.
Oui, j'aime beaucoup Buenos Aires. Peut-être que je l'aime plus parce que c'est une ville laide, une ville qui n'a rien à montrer. Quand les étrangers arrivent à Buenos Aires, on veut leur montrer quelque chose, il n'y a rien à montrer. Le quartier italien, peut-être la Boca, mais cela est étranger à Buenos Aires. Mais il n'y a rien à voir. C'est une ville lived in, comme on dit en anglais, non? Lived in. C'est une ville que l'on doit vivre. Ce n'est pas un spectacle, il n'y a rien de spectaculaire. Et après ça, la ville est assez, enfin, tout assez triste, assez morne, assez médiocre.
Venez fréquenter le quartier parce que c'était. Il y avait une ambiance de ces personnages qu'il aimait, les cuchilleros, les vieilles rues mal éclairées. Avec Bioy Casares, ils allaient à Puente Alsina. J'étais fasciné pour les bas quartiers, les bistrots dans lesquels il y avait toujours quelqu'un qui jouait de la guitare. Il dit dans son poème qu'il n'a jamais, chaque fois qu'il a eu un malheur, qu'il était triste, qu'il avait été déprimé, il n'a jamais été déçu de sortir dans les rues de Buenos Aires et trouver consolation dans les rues de Buenos Aires ou dans le son d'une guitare qui sortait d'un coup.
Buenos Aires. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol me ha guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urgen su incalculable laberinto. Aquí la tarde ceniciente espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que lo quiero tanto.
Bueno, yo soy antropóloga. Yo estuve trabajando muchos años con los ocupantes de casas de este barrio.
Je suis anthropologue, j'ai travaillé plusieurs années avec les habitants du quartier.
Entonces lo que sucedió es que finalmente en el año 1984, el mercado se traslada.
Alors finalement en 1984, les halles ont été transférées en banlieue.
El mercado queda abandonado desde 1984 hasta 1998.
Le bâtiment a été abandonné de 1984 à 1998.
La réapertura démocratique de notre pays.
La fermeture du marché a coïncidé avec le retour à la démocratie d'un pays. Comme la situation était beaucoup moins rigide que sous la dictature militaire, il y a eu plein d'espaces, des cantines, des mûrissoirs de bananes, des petits dépôts tout autour du marché qui, progressivement, ont été occupés par ces couches populaires qui avaient été expulsées de la ville pendant la dictature. Dans les années 90, ce quartier devint le lieu de l'underground porteño. Il y a eu tout un mouvement de théâtre off qui s'est installé à côté des maisons squattées.
Babilonia, Limbo, sí, era un barrio lo que era conocido en la década del 90 como el Bronx porteño.
On l'appelait le Bronx porteño.
Y el clímax de esa época del Bronx porteño.
Le summum fut quand on a découvert le cadavre d'une jeune fille de 15 ans égorgée.
Degollada arriba de un auto. Y entonces a partir de ahí
sur cet événement, on a même écrit des poèmes.
Et bueno, y además aquí vivió Luca Prodan.
Ici a vécu Luca Prodan, le leader de la bande Sumo, qui ensuite est mort d'une overdose d'héroïne. Il y a une masse de légendes obscures associées aux années 90.
Et bueno, luego lo que sucedió es que a partir de múltiples proyectos que hubo en torno a qué hacer con ese mercado que permanecía abandonado.
Parmi les nombreux projets de réhabilitation de ce marché abandonné, celui qui a été retenu, c'est la construction de ce centre commercial. Ouvrage qui a été extrêmement controversé. C'est un processus de gentrification et de rénovation qui n'est jamais allé jusqu'à son terme parce que le quartier continue à avoir un caractère profondément populaire.
Il
y a les baloches péruviens et les bistrots et les conventillos qui en témoignent. Et il y a toujours des maisons occupées un peu cachées. Il y a comme un poids de l'histoire qui n'a jamais pu s'inverser tout à fait.
Lundi 16 novembre, quartier de Montserrat, café London City. Damien Tabarovski, écrivain et éditeur.
Nous sommes dans un café qui s'appelle London, tout le monde ici l'appelle en féminin, La London, sur l'avenue de Mayo, qui est une des avenues plus importantes de Buenos Aires, qui mène de la Casa Rosada, du palais de l'Élysée, l'équivalent, où loge le président, jusqu'au Parlement, en plein centre-ville. L'avenue de Mayo, c'est une avenue dans un quartier très littéraire à l'époque. D'un côté littéraire, de l'autre côté, il y avait plein de communautés espagnoles. Si on voit l'avenue, il ressemble à peu près à la Gran Vía à Madrid. Et dans ces quartiers-là, et même dans ces bars-là, il y avait à l'époque, par exemple, Cortázar, un de ses romans, le début d'un roman, de ses premiers romans, se passe ici même, dans ce café-là. Et dans un café qui est ici, pas loin d'ici, à 300 mètres, qui s'appelle Tortoni, il y avait Borges à l'époque, c'était dans les années 40, 50, un quartier plein d'écrivains très vivants. Maintenant, c'est un peu plus touristique, mais ça continue quand même à avoir des librairies d'occasion. C'était un endroit typique de l'ancienne ville de Buenos Aires, on peut dire. Comment c'était Buenos Aires dans les années 60, 50, même 40.
Par la porte de l'avenue de Mayo, il voyait aller et venir des têtes qui lui étaient familières. Il profita d'une méditation sans doute ethnographique de son interlocuteur pour regarder plus attentivement autour de lui. Presque toutes les tables étaient occupées, mais rares étaient les clients qui avaient un air de voyageur. Un groupe de filles sortit avec faux pas, petits rires et regards vers des censeurs ou des admirateurs éventuels. Une dame pourvue de nombreux enfants se dirigea vers le salon aux nappes rassurantes où plusieurs femmes et quelques couples paisibles consommaient gâteaux et sirops.
Le café, c'est une de belles, un des beaux héritages qu'on a reçu de l'Espagne, de l'Italie et de la France. Il y a des cafés partout ici.
L'avenue de Mayo présentait obstinément le même éternel désordre. On criait « Dernière édition ». Un haut-parleur vantait les mérites d'Homo sous la lumière rageuse de 5 heures de l'après-midi. Heure fausse, comme tant d'autres choses qui arrivent trop tôt ou trop tard. Et une odeur mêlée d'essence, d'asphalte surchauffé, d'eau de Cologne et de sueur mouillée vous poissait le visage et les mains. Seule une longue habitude de Buenos Aires, pour ne pas dire plus, pour ne pas tomber dans la métaphysique, pouvait vous faire trouver raisonnable le spectacle qui vous entourait et vous contenait.
La description qu'il fait de l'avenue de Mayo, c'est parfait. Si on peut comprendre l'avenue de Mayo des années 50, il faut lire. Borges faisait des descriptions de la banlieue proche, on pourrait dire, de la zone, du quartier de la partie sud de la ville. C'est le quartier plus pauvre, dans ses nouvelles, dans ses contes, c'est magnifique. Il y a beaucoup. Roberto Art, peut-être que c'est le plus important, le romancier urbain à Buenos Aires, des années 20-30. On peut voir, par exemple, à Buenos Aires, il y a le métro, ce métro-là, la ligne A. C'était le premier métro d'Amérique latine. c'est fait pour les Anglais. Ça n'est pas en trompe. Et Roberto Alt décrit la construction des métros d'une manière sublime, magnifique. On peut voir les ouvriers travaillant, il décrit tous les changements urbains.
C'est mythique, le café de Buenos Aires.
Extraordinaire.
En fait, je vous ai dit que Buenos Aires, c'était vraiment une ville qui fleurait bon la Méditerranée. Les Argentins, les Portaignes, sont en grande majorité des immigrants italiens. Ils parlent espagnol avec l'accent italien et ils parlent espagnol avec les mains. Le symbole de cette vie méditerranéenne, c'est vraiment le café de Buenos Aires. C'est une institution. C'est une institution. En fait, il faut savoir que Buenos Aires a classé environ 70 cafés comme bares notables, c'est-à-dire des cafés d'intérêt public, en fait. Des cafés en bois, qui ont un siècle, qui ont été vraiment très bien conservés, avec les serveurs en costume. Enfin, c'est vraiment...
Bon, ici, c'est en traverse, c'est... Ma maison est à côté du Tortoni. Le Tortoni, c'est le café plus ancien de la ville. Un café historique qui a vécu beaucoup de cette époque. Dans les années 30-40, il y avait des tangos. Mais quand même, il maintient encore l'atmosphère comme était à l'époque. C'est 1858, que pour nous, dans une ville moderne et nouvelle comme Buenos Aires, 58, c'est très ancien, c'est le premier café à Buenos Aires. Il y a un coin magnifique dans le café Tortoni, c'est la bibliothèque du Tortoni, on peut aller les voir. C'est une espèce de coin secret. Les touristes n'arrivent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il existe.
C'est la
avant, c'était la bibliothèque, il y avait des réunions des écrivains dans les années 30, 40, 50, Borges était là. Il y a des photos, il faut les trouver et voir. Maintenant, c'est aussi un espèce de musée. Le soir, il y a des tangos,
oui.
Des choses pour les étrangers.
Oui,
pour les touristes. Mais c'est dommage, mais ça va revenir. La prochaine crise économique à l'Argentine, c'est-à-dire dans 2-3 mois, quand le tourisme descend, il arrête de venir à Buenos Aires, ça va être encore un café pour les voisins du quartier, comme était moi à l'époque. Parce que pendant, dans les années, fin des années 80, quand je vivais ici à côté, ici, oui. C'était pour les voisins.
Pour les gens du coin.
Ouais, c'est ça.
C'était un après-midi venteux, très venteux. Il ne coulait pas une goutte d'air. Subitement, une phrase de John Donne. Variable et en conséquence malheureuse est la condition de l'homme. À cet instant, j'allais bien. À cet instant, je suis malade. D'où venait cette phrase? De quel endroit? Impossible de le savoir. Sûrement pas de l'esprit de Dami. Dami n'avait jamais entendu parler de John Donne. Peu lui importait la poésie. Et surtout, il jouissait d'une excellente santé. C'était un taureau, un jeune poulain, un homme avec un H majuscule. Les changements imprévus lui étaient étrangers. Il ne connaissait pas la cyclothymie, le brusque malaise, les humeurs du corps. Pour Dami, la névrose était quelque chose qui ne se produisait que dans le vieux quartier de Palermo Viejo. Il ne pouvait pas encore le savoir, mais quelques années plus tard, il finirait par suivre une psychothérapie dans un cabinet de la rue Charcas, avec vue sur la place Freud. Pendant ce temps, le vent avait achevé son œuvre. La phrase de Donne s'était envolée de son esprit, d'un esprit dans lequel elle n'avait jamais été. Elle s'était envolée comme s'envolent les ombrelles sur la plage à la tombée du jour, de façon quelque peu convulsive, en titubant ka-inka, telle une légère extravagance, mais en même temps de façon définitive, irréversible, catégorique. On pourrait dire aussi que la phrase avait disparu. Mais en Argentine, ce mot a des connotations sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'arrêter.
Autobiographie clinique, Damien Tabarowski.
Presque toute mes fictions se passent à Buenos Aires, c'est vrai. Mais plutôt parce que je suis un romancier urbain. Et la ville, est, pour moi, c'est une espèce de scénario. Mais je ne suis pas un romancier de Buenos Aires. Simplement, je raconte des histoires qui se passent à Buenos Aires, mais je ne suis pas une espèce de... une littérature anthropologique, où on peut voir Buenos Aires dans ma littérature. Comme je suis un peu, disons, je n'ai pas beaucoup d'imagination, peut-être c'est plus simple pour moi, par exemple, mon dernier roman se passe dans la rue où j'habite. Mais c'est vrai que presque tous mes romans se passent à Buenos Aires. Oui. Et pour moi, la ville, c'est très important, la ville comme idée. Je suis un romancier urbain, je n'imagine pas qu'il y ait un roman qui se passe à la Champagne, ou de science-fiction, je ne sais pas, dans une autre planète. Il faut qu'il y ait des voitures, des histoires urbaines, et des personnages qui vivent dans une vie moderne. C'est une Buenos Aires moderne, peut-être la mienne.
Les bruits, par exemple, de la rue Corrientes, hein, les bruits, les gens qui passent, etc. C'est quelque chose, un rythme presque infernal. Hein. Moi, moi, j'aime ça. Il me semble qu'il y a quelque chose à regarder, à penser, qui suggère des histoires, sans le développer. C'est simplement des impressions comme ça qui font que j'arrive à comprendre la fascination qui peut exercer cette ville.
Maintenant, je passe par un mauvais moment avec la ville, qui a été gouverné pendant 7-8 ans par la droite. Je crois que c'était presque catastrophique pour la ville de Buenos Aires. Que c'est un processus qui a commencé pendant la dictature, de devenir Miami, pour dire une chose. Pendant le 19e siècle, jusqu'à les années 50-60 du 20e, Buenos Aires voulait être Paris. C'est assez ridicule aussi. Mais quand même, je préfère être Paris que Miami. Donc j'ai maintenant un mauvais rapport avec la ville de Buenos Aires, mais quand même c'est mon endroit, j'ai des enfants, j'ai vécu ici, j'écris en espagnol, même que je suis traduit en anglais, en italien, en français, en allemand, donc je voyage beaucoup. Et chaque voyage pour moi, je voyage 2-3 fois par an, c'est une espèce de souffle. Pour moi, me sortir un peu de Buenos Aires, et des moments c'est étouffant. Mais quand même, une chose que j'adore de Buenos Aires, c'est le problème que vous avez maintenant, c'est les bruits. Les bruits, j'adore, c'est une ville qui vraiment, il y a beaucoup de bruits. Je crois que c'est New York et Buenos Aires, et peut-être Sao Paulo. Mais moi, j'adore les bruits, c'est extraordinaire pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu 15 ans au centre-ville. Et moi, j'habite dans un quartier, dans la ville à Buenos Aires, pas à la banlieue, mais un peu longtemps dans la ville même. Parce que j'ai des enfants, c'est plus tranquille, j'ai un petit jardin, mais quand même arrive le métro chez moi. Mais mon projet, c'est divorcer ma femme, peut-être, bien sûr, que mes enfants grandissent et revenir à centre-ville au plus vite possible.
Et ma première novella, je permanentemente soñaba.
Dans mon premier roman, je parle d'un rêve récurrent que je faisais où il y avait un train transversal. Tu as vu qu'en Argentine, les trains vont tous vers Buenos Aires, il n'y a pas de ligne transversale. Dans mon rêve, je voyais très nettement un train qui allait de Barracas à Chacarita et qui avait un arrêt intermédiaire au
Havre.
À ma grande surprise, lorsque je faisais les recherches sur le marché des Halles, un collègue m'a rapporté des revues historiques. Le train dont j'ai rêvé avait effectivement existé. À la fin du 19e siècle, il y avait en effet un train qui transportait les ordures de Barracas jusqu'ici, au coin des rues Corrientes et Jean Jaurès. Ensuite, avec l'épidémie de fièvre jaune de 1871, d'ici, du coin de la rue, partait un train qu'on appelait le train de la mort, qui transportait tous les cadavres de l'épidémie jusqu'au cimetière de Chacarita.
C'est-à-dire que ce train que j'avais soñado tanto.
Il m'arrive toujours des choses folles à Buenos Aires. Par exemple, je rêve de vieux cimetières et ensuite j'apprends que ces cimetières ont existé.
Y luego saber que esos cementerios existían, hay como una relación muy atravesada por el inconsciente.
Il y a comme une relation à la ville traversée par l'inconscient.
La poesía ha trabajado más en mi infancia en la dictadura, es decir.
Dans ma poésie, j'évoque surtout mon enfance pendant la dictature. Sans le vouloir, j'avais participé à l'une des premières rencontres des maires de la place de Mai. Mes frères étaient enfants de cœur à l'église de Saint-François
d'Assise.
Je me souviens parfaitement à l'âge de 7 ans d'être arrivé à l'église et de n'avoir pas compris pourquoi il y avait 20 ou 30 femmes qui pleuraient désespérément. C'était l'une des premières réunions où les mères réclamaient encore à l'église de s'engager et venaient avec leurs questions.
Y la escena para mí fue muy fuerte porque era el.
Ça a été une scène très dure pour moi de voir le curé refuser l'hostie à ces femmes qui voulaient communier.
Que les negó la hostia, que no las dejó comulgar.
Or, mes deux frères étaient enfants de cœur de ce curé. Plus tard, il m'a fallu exorciser un peu ce passé et j'ai écrit toute une série de poèmes sur mon enfance sous la dictature.
Mardi 17 novembre, dans la réserve écologique à Martinez, au bord du Rio de la Plata. Lucia Cedrón, cinéaste.
Alors je vous ai emmené au Rio justement, puisque le Rio c'est quand même une partie très importante de ma ville. Et c'est une ville où on dit souvent qu'il est dos au Rio, qui est une ville construite en donnant le dos au Rio. Et c'est quand même... une partie très importante, parce que quand on regarde, on dirait plutôt que c'est la mer, plus qu'un fleuve. On ne voit pas l'autre berge. Bon, ça a toute une importance historiquement, c'est quand même très très important. De fait, les habitants de ma ville sont des porteños, des habitants du port. Donc c'est vraiment le lien au port et à la circulation est très très important. Et puis plus récemment, c'est aussi quelque chose de très triste, parce que c'est un peu le dernier grand cimetière de la dictature militaire. Là devant nos yeux, c'est là où ont été jetées des centaines et des milliers de personnes, parfois vivantes, depuis les avions pendant la dernière dictature militaire argentine. Donc c'est un fleuve qui a beaucoup de sens différents, puis qui aussi veut dire Río de la Plata, fleuve de l'argent, d'où le nom Argentine, parce que les Espagnols pensaient qu'ils allaient trouver des métaux précieux ici. Ils ont trouvé plein d'autres choses, mais je crois que des métaux précieux, ils n'en ont pas beaucoup trouvé. Voilà. Et donc, précisément au Rio de la Plata, et au bord de ce fleuve, j'ai choisi un lieu que j'aime beaucoup, qui est une réserve écologique, qui est toute petite. Voilà, on nous donne la bienvenue, et qui est un endroit préservé, vous allez voir, de cette nature exubérante que nous avons la chance d'avoir ici. On la sent, comme vous avez pu voir dans la ville, ces arbres immenses, plein de fleurs, et ces parcs, et ces bois.
Mais donc, tout en étant et française et argentine, ouais. Tu as quand même choisi ouais. De vivre ici et d'élever tes enfants ici.
Complètement. En décembre 2001, il y a eu une très grande crise en Argentine, un peu la dernière en date que l'on connaisse, dont on se souvienne, une crise économique, politique et sociale. Et il se trouve que par les hasards de la vie, je me trouvais à Buenos Aires à ce moment-là. Parce que mon grand-père était décédé, mon grand-père maternel qui m'a élevé un peu après le décès de mon père. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans pour des raisons liées à la dictature. Du reste, non élucidée à ce jour. Et donc, je suis venue à Buenos Aires donner un coup de main à ma mère qui se trouvait donc à s'occuper de tout ça. Et j'ai trouvé un pays complètement en crise. Bon, tout le monde sait qu'en Chine, le mot crise signifie opportunité. Donc, tous ces changements et ces bouleversements m'ont profondément émue. Notamment un jour, sur la place des deux congrès, j'ai vu les maires de la place de Mai faire face à la police. Et puis, j'ai vu un type se faire descendre sur les marches du congrès de la Nation. Et je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, mais c'est ici que j'ai envie d'être. Alors là, on est juste à côté du train. Voilà, si on prenait ce train, on finirait au Tigre, qui est le delta de Buenos Aires, un peu plus au nord. Regardez, on voit Buenos Aires, en fait, on est juste devant la baie, et donc on voit un peu... On voit le port, la région portuaire, on voit la Boca en fait, là-bas.
Mardi 17 novembre, quartier de Núñez. Parque de la Memoria, parc de la mémoire. Dans ce parc se dresse le monument aux victimes du terrorisme d'État. Il est constitué de 4 hauts murs, qui indique un chemin brisé, blessure gigantesque qui tend vers le fleuve. Sur les murs stèles ont été apposées 30 000 plaques. dont seuls 9000 sont déjà gravés avec le nom, le prénom et l'âge des personnes disparues. Exposition Albertina Carri. Opération Fracasso y el sonido recobrado. Opération échec et son retrouvé. L'exposition, composée de 5 installations audiovisuelles, est une réflexion sur la mémoire. Albertina Carri écrit: peut-on éteindre le souvenir? Peut-on vivre sans se souvenir? Si on peut parfois éteindre les images, il est impossible de faire taire les sons qui sont restés au plus profond, au-delà des paupières.
Le parc de la mémoire, c'est pour moi un espace fascinant. J'y suis venue pour leur proposer une exposition parce que cela me semble un grand hommage. Le parc, justement, a une énergie très émouvante. Sur ce monument aux victimes, sur ce cénotaphe gigantesque, la liste des noms des gens avec leur âge, c'est une grande trouvaille. Là, tu prends conscience de qui étaient les disparus, de toute cette génération disparue, puisqu'on apprend leur âge. Donc pour moi, c'est important de faire cette exposition ici et non ailleurs à Buenos Aires. C'est ainsi que peu à peu s'est monté ce parcours de la mémoire. J'étais en train de travailler sur diverses choses autour de mon père et ma mère, et finalement j'ai fait cette exposition spécialement pour cette galerie.
Les noms de tes parents sont sur le plaque?
Oui.
Quel sens ça a pour toi?
Je viens toujours ici pour être dans le parc. C'est un endroit que j'ai toujours aimé. J'aime les sculptures. J'ai été au courant du projet depuis le début et j'ai trouvé intéressant le débat sur le projet artistique, disons. C'est un endroit où je passe toujours parce que je vis en banlieue. Je suis obligée d'y passer. Je m'arrête toujours et j'y reste un moment. C'est comme un espace de réflexion. J'ai toujours senti le parc comme un espace à moi, un lieu de grande paix. Et cette sensation, je ne l'ai nulle part ailleurs.
Jeudi 19 novembre, quartier Saint-Nicolas, à la place de Mai. Martin Lutte, artiste sonore.
La place de Mai à Buenos Aires, c'est le centre politique du pays. Il y a le palais du gouvernement, la cathédrale, le cabildo, la banque centrale de la nation, le centre du pouvoir politique et symbolique du pays. Là, on a fait une intervention sonore qui s'appelait « Mais les sons de la place ». Ce qu'on a fait, c'est de reconstruire l'histoire de la place entre 1945 et 2001, rien qu'avec des sons. Les sons de base étaient des documents sonores d'événements qui se sont produits sur cette place. On a utilisé un dispositif de son surround, un son enveloppant, à diffusion octophonique à grande échelle, parce que la place est grande. Symboliquement, ça a été très fort parce qu'on diffusait exactement dans le cercle où les maires de la place de Mai font leur ronde tous les jeudis depuis l'année 1976. Quand j'ai fait cette œuvre, je l'ai pensée de manière chronologique, parce que comme c'était un espace ouvert, je supposais que les gens allaient passer puis s'en aller. Mais au contraire, les gens restaient. restaient, en se rappelant l'histoire qui est celle de tous les Argentins. Selon ce qu'ils entendaient, les gens se souvenaient de l'événement. J'étais sur la place tel jour de telle année. Ils se souvenaient avec leur propre mémoire historique. On a travaillé avec des archives documentaires, la voix de Juan Perón ou celle d'Eva Perón qui parle depuis la Maison Rose, la voix d'Alfonsine, le bombardement de 1955 qui a eu lieu sur la place de Mai et a tué 300 personnes, les concerts de casseroles en 2001. L'œuvre dure une heure, les cloches sonnent et on entre dans une espèce de tunnel de temps où on fait la traversée de plusieurs places de Mai de 1945 à 2001. Et on en sort quand à la fin on retrouve les cloches qui sonnent. Il y a quelque chose de génial, c'est que quand tu fais entendre la voix de Perón qui parle sur la place, les échos de l'enregistrement redoublent parce qu'ils répercutent les échos de la place. On récupère l'aura de l'archive documentaire.
Lundi 16 novembre, devant le Collège National Buenos Aires. Marisa Munsek, membre de l'association Barrios por Memoria y Justicia, quartier pour la mémoire et la justice.
El proyecto de Barrios por Memoria y Justicia es el de homenajear a las...
Le projet Quartier pour la mémoire et la justice est de rendre hommage aux victimes du terrorisme d'État de la dernière dictature militaire en Argentine. Ceci au moyen de carreaux de céramique qu'on place sur les trottoirs devant les lieux où ont vécu, ont étudié, ce qui est le cas ici, où ont travaillé les militants politiques enlevés et disparus avant et durant la dictature militaire.
Ahora estamos en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio que depende de la universidad.
Maintenant, on est face au Collège National de Buenos Aires qui dépend de l'université, où il y a eu 108 personnes enlevées et disparues.
108 personnes détenues disparues.
Je peux parler en particulier de Malena Gallardo, qui a été une camarade et mon amie. Elle avait eu 15 ans en juin 1976 et en juillet on l'a enlevée et elle n'a jamais réapparu. Nous avons commencé ce projet collectif en 2006 pour le 30e anniversaire du coup d'État militaire. On fabrique les carreaux à la demande. Par exemple, pour ici, c'est à la demande des étudiants du collège qui ont pris contact avec nous. On a dû fabriquer 6 carreaux avec 108 noms. On grave les lettres des noms et on fait aussi des incrustations de couleurs. Les couleurs sont une manière de parler de la vie. Ils attirent mieux l'attention du passant non averti parce que les carreaux sont placés sur les trottoirs et s'adressent à tout le monde, à toute la société.
C'était Villemont de Buenos Aires. La ville de mémoire, avec Noé Gitric, Maria Carman, Carlos Cito, Julien Maillard, Damien Tabarovski, Lucia Cedrón, Albertina Carri, Martin Liut, Marisa Munsek. Et la voix de Jorge Luis Borges avec Jean Deve, Archivina, 1978. Traduction, Daniel Manès. Texte lu par Garance Clavel, Laurent Lederer. Une émission d'Andrea Cohen réalisée par Gaël Gillon. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot. Coordination, Catherine Libert. Merci à l'Institut français d'Argentine, l'ambassade d'Argentine en France et Air France.
Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter éternellement en podcast Villemonde, Dubaï et toutes nos escales à travers le monde. Éternel, comme l'eau et comme l'air, c'est ainsi que Borès écrivait Buenos Aires. Éternel, Alors l'exploration continue. Seconde escale, Buenos Aires, Villemonde, dimanche prochain, 13 mars à 15h. Comme le tango de Carlos Gardel, mon Buenos Aires bien-aimé. Et dans quelques instants, rendez-vous avec les conférences de Carême. Nous retrouvons Culture d'Islam le 27 mars sur France Culture.